religions du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme de Religion du Monde ce dimanche, avec nos invités, la présidente du CCFD Terre Solidaire, Sylvie Bucari de Pontoise, le docteur Ariel Toledano et l'abbé Pierre-Alain Lejeune, nous poursuivons notre réflexion commencée dimanche dernier sur le monde d'après, après le coronavirus bien sûr. Puis notre regard se tournera vers le Proche-Orient ce dimanche 17 mai, en effet la journée des chrétiens d'Orient. Enfin, ce dimanche aurait dû être le point d'orgue du PMI à Lourdes, le pèlerinage militaire international, un événement annuel unique au monde qui a été annulé du fait du Covid. Nous entendrons son nouveau directeur, le père Jean-Marc Fournier, aumônier de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Et tout s'est arrêté. Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence. Cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. À cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie! À quoi ressemblera notre vie après? Après, nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler, car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter, un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent, et nous appellerons cela le dimanche. Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l'autre côté de la ville, ou aux cousins qui sont loin, et nous appellerons cela la famille. Après, nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, qu'un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être, est une bénédiction puisqu'elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse.
Et après, avec un point d'interrogation, c'est la réflexion de l'abbé Pierre-Alain Lejeune, prêtre du diocèse de Bordeaux, réflexion postée sur son blog le 22 mars et qui a fait le buzz sur la toile et dont nous venons d'entendre un extrait lu par Michael Gonzalves. Nous avons attendu le début du déconfinement pour contacter le père Pierre-Alain Lejeune. Il est avec nous au téléphone. Bonjour mon père.
Bonjour.
Et après, cette réflexion, vous voulez te poser dès les débuts du confinement. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai. C'est dans les tout premiers jours que j'ai écrit ce texte, c'était en fait l'édito de la feuille dominicale de ma paroisse, parce que je voyais bien que ce que nous visions était tellement inédit, tellement incroyable, qu'il devait bien en sortir quelque chose. Mais c'est vrai que c'était encore les tout premiers jours. C'était une découverte encore, le confinement. Je voulais simplement que cette expérience inédite, nous puissions la vivre dès le départ, en nous demandant qu'est-ce que ça va porter comme fruit, qu'est-ce que le présent que nous traversons ou qui nous est imposé peut changer dans notre manière de vivre, en fait.
Qu'est-ce qu'on va en faire après ?
Qu'est-ce que nous allons en faire exactement, oui.
Alors, vous avez choisi plusieurs thèmes, hein, on l'a entendu. Oui. Se poser, hein, prendre un jour, se poser, bon, le dimanche. Le thème de la famille, le thème de la sagesse, mais il y a d'autres thèmes, hein, que vous avez développés, la gratitude, la patience aussi, hein. Vous dites, voilà, après, est-ce que nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d'attente, dans les magasins, profiter de ce temps qui nous est donné pour parler autour de nous? Est-ce que vous pensez précisément que il y aura un après, que l'on vraiment va changer, que l'on a envie de changer?
En fait, je ne sais pas si on a envie de changer, mais je suis convaincu que ce que nous venons de vivre à travers ces 2 mois touche en nous des aspects de nos vies qui ne tournent pas rond ou qui ne tournaient pas rond. J'espère que nous allons changer, mais en fait, sur la fin de ce texte, j'aimais l'idée que, en fait, c'est chacun de nous qui doit changer, c'est-à-dire que le changement ne peut être que personnel, il ne peut être qu'intérieur, il ne peut être que profond. Je ne crois pas aux grandes incantations d'une nouvelle société qui pourrait bouleverser l'ancienne. Je crois plutôt que chaque personne peut être transformée intérieurement s'il accepte d'être bousculé par les expériences qu'il traverse.
Alors, il y a également une réflexion, j'allais dire, d'ordre économique, parce que dans un des après, hein, vous dites, voilà, après, point d'interrogation, nous rirons en pensant à l'avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d'une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique, broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l'homme au centre de tout, parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système, quel qu'il soit, et nous appellerons cela la justice. Père Pierre-Alain Lejeune.
Oui, en fait, on pourrait appeler ça de bien des noms, cette économie ultra-financiarisée qui est la nôtre. Moi, j'appellerais ça du nom d'idole, tout simplement. C'est un nom biblique hein, qui fait qu'on devient les esclaves d'un système que l'on a soi-même fabriqué. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins pour comprendre ce que ça veut dire, tout ça, parce que c'est notre quotidien, finalement. Nous voyons bien que nous sommes devenus dépendants d'un système que nous avons fabriqué. Je ne sais pas si ce système va s'effondrer. Ce qui est terrible, c'est qu'en s'effondrant, il emporte beaucoup de vie hein, et d'équilibre de vie. Mais je crois que cette crise que nous traversons et ce long confinement a mis à jour une certaine perversion du système hein, qui fait que, en ne poussant plus les gens à la consommation à tout craint, on détruit des emplois. Et donc aujourd'hui, la seule solution qu'on entend sur les médias, c'est de dire il faut à nouveau consommer parce que sinon des emplois vont être détruits. Mais c'est absurde en fait, c'est absurde de vouloir repartir dans le vieux système pour soi-disant sauver des emplois. Mais en fait, c'est ce système est vicié à la base et donc il nous faut inventer autre chose. Je crois que sur le long terme, nous trouverons autre chose.
Alors quelques mots pour conclure, Père Pierre-Alain Lejeune, bon, l'espérance, hein, c'est une vertu, j'allais dire, que l'on trouve au sein des religions. Quelle est votre espérance ?
Mon espérance, d'abord, l'espérance n'est pas l'optimisme. L'optimisme, je ne suis pas très optimiste à court terme parce que je crois que nous allons vers des lendemains difficiles. L'espérance, c'est savoir qu'il y a toujours autre chose. Il y a un horizon plus lointain que les espoirs seulement humains, que les optimismes seulement humains. Mon espérance, c'est que je crois en l'homme. Je crois que nous sommes capables d'inventer une nouvelle société. Je crois que il y a en nous cette part divine qui peut vraiment dépasser toutes les épreuves, même si ça doit passer par des moments, des périodes extrêmement difficiles. Je ne suis pas très optimiste sur le court terme, parce qu'il y a cette crise économique qui risque d'être terrible, mais je suis rempli d'espérance parce que c'est ce que m'apporte ma foi. Je crois que la foi nous donne de voir plus loin. De savoir, sans trop savoir ce que nous espérons, mais que l'avenir est ouvert, que l'horizon est ouvert.
Je vous remercie, Père Pierre-Alain Lejeune. Merci.
Merci.
Le coronavirus, Covid-19, est le toxin qui nous presse de questionner nos valeurs et nos modes de vie pour bâtir le monde d'après, pour habiter autrement notre maison commune. C'est une des phrases phares de la tribune de Sylvie Bucary de Pontoile, présidente du CCFD Terre Solidaire, tribune publiée sur le site de RFI. Sylvie Bucary de Pontoile, bonjour.
Bonjour.
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est la première ONG française de développement. S'appuyant sur la pensée sociale de l'Église, le CCFD Terre Solidaire entend agir depuis sa création, il y aura bientôt 60 ans, sur les causes structurelles de la pauvreté et des inégalités. Et ces dernières années, le CCFD a tiré la sonnette d'alarme sur la destruction de l'environnement. Alors, Sylvie Bucary de Pontoile, est-ce que cette crise vous a-t-elle donné raison ?
J'aurais envie de dire malheureusement oui, ou peut-être heureusement dans la mesure où elle est un révélateur de ce que nous essayons de crier depuis des années sans être ni écoutés ni suivis. Là, on a l'impression que tous les acteurs dans la société, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises et bien sûr toutes les composantes de la société civile, ont pris la mesure de la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés et qui sont bien plus larges évidemment que cette crise sanitaire qui révèle une crise économique, une crise financière, une crise sociale, j'ai envie de dire plus largement une crise écologique, et encore plus largement, une crise presque existentielle pour notre planète.
Donc il s'agit bien d'une opportunité à saisir. Cela dit, est-ce que, selon vous, une fois le temps passé de cette crise, les mauvaises habitudes reprendront ?
résolument, en tant que chrétienne, je ne serai pas pessimiste. L'espérance de la foi m'habite. Et donc, je vois à l'œuvre aussi bien des forces positives que des forces négatives qui seraient enclines à nous entraîner ou à nous faire nous retourner vers le monde d'avant et peut-être même en pire. Mais il me semble qu'il y a un certain nombre de pistes, on sent de forces vives que l'on perçoit et qui sont déjà en action dans cette crise, qui sont autant de points d'appui pour bâtir une société renouvelée. Je veux parler de toutes les initiatives prises par un certain nombre d'entreprises. Je veux parler de ce fourmillement de créativité dans la société civile et dans ses diverses composantes, associations, fondations, syndicats, groupements divers et variés, professionnels et autres. Je veux parler aussi du retour de l'État après tant d'années de retrait et de délitement. Donc ça, ces éléments-là, pour moi, sont très positifs par rapport à d'autres, il faut bien le dire, qui pourraient nous inquiéter. Par exemple, le fait que d'autres entreprises profitent de la situation pour éventuellement faire des retours en arrière, notamment du point de vue environnemental. Le fait qu'on observe un repli à l'intérieur des frontières des États, d'une manière générale, et un désengagement du multilatéralisme de certains grands États, les États-Unis pour ne pas les nommer, à l'heure même où, face à un défi mondial, celui de la pandémie, il n'y a qu'une solution pour trouver les moyens de lutter et de contenir cette pandémie, c'est véritablement d'établir des coordinations, des dialogues internationaux pour trouver ensemble des solutions à la mesure de ces défis.
La tribune que vous publiez sur RFI s'intitule « Sur quelles valeurs fonder le monde d'après ?» Pour vous, effectivement, il ne s'agit pas de dire effectivement, bon, ce monde doit changer, il doit changer sur un socle. Quel est ce socle ?
Alors ce socle, c'est pour nous celui de l'Évangile et plus spécifiquement de la pensée sociale de l'Église qui, depuis déjà assez longtemps, a énoncé un certain nombre de valeurs, de principes sur lesquels se réunir. Et je le dis tout de suite, ce sont des valeurs, des principes sur lesquels beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver, pas seulement des croyants, mais aussi des incroyants, que ce soit la justice, la dignité de tout être humain, l'harmonie entre l'humanité et la nature, la priorité accordée aux plus vulnérables, aux plus pauvres, le respect des droits humains, la destination universelle des biens, c'est-à-dire le fait que pour les ressources naturelles, il faudrait une gestion partagée, commune, ou encore l'incitation à encourager la participation, l'engagement des citoyens à se prendre en charge et à ne pas tout laisser entre les mains de l'État ou d'autres acteurs. Et puis, ce principe qui est si essentiel, qui est d'ailleurs tellement essentiel qu'il figure dans notre Constitution et qu'il est consubstantiel aux institutions de l'Union européenne, c'est le principe de subsidiarité qui commande que les actions puissent être portées, entreprises, par ceux qui sont au plus près du terrain et des solutions à mettre en place.
Oui, ce que le CCFD, effectivement, fait depuis le début de sa création, il y a bientôt 60 ans. Quelle est l'expertise du CCFD, Sylvie Bucari de Pontoile ?
Alors, je crois qu'il y a une dimension essentielle dans ce que nous appelons au CCFD Terre Solidaire le partenariat international, qui suppose que l'on tisse des liens avec les autres, qu'ils soient pour nous très lointains, mais dans d'autres situations, ils peuvent être très proches. Et ces autres très lointains, qui sont nos partenaires, qui sont le plus souvent des organisations issues de la société civile, qui ont des formes extrêmement diverses, eh bien, avec eux, nous tissons des liens d'égo pour pouvoir agir dans et les soutenir dans leur action dans leur pays. pourquoi agir pour transformer socialement et économiquement les institutions de leur pays, le fonctionnement de leur pays. Et donc pour le CCFD, quel est l'objectif principal? C'est tout simplement d'accompagner ses partenaires à être des acteurs citoyens dans leur propre société, pour la transformer, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en luttant contre les inégalités, en luttant contre la pauvreté, en luttant contre les causes structurelles de la faim.
Oui, parce qu'effectivement, il faut préciser que le CCFD n'envoie pas d'expatriés, vous travaillez avec des partenaires locaux, vous accompagnez en fait.
Tout à fait, parce que là encore, l'esprit fondamental pour nous, ce n'est pas de faire à la place, ce n'est pas de décider à la place, mais c'est de donner à ceux qui vivent dans leur pays et qui donc le connaissent parfaitement, savent ce qu'il convient de faire, les moyens de pouvoir le faire. Broken memories. Oh, it taunt me like a bird caged by scorched wings. Puzzle pieces missing. The walls have vanished. Like the wind without her whispering. And the colors wept from old. Her tapestries would be left nothing but sullen imagery.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invitée est Sylvie Bucari de Pontoile, présidente du CCFD Terre Solidaire. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'une autre agriculture. Vous, le CCFD, depuis longtemps, vous défendez l'agriculture familiale et l'agroécologie.
Alors tout à fait, cette approche de l'agroécologie qui est paysanne, qui est solidaire, qui se veut une approche globale, c'est-à-dire qu'elle dépasse largement le seul champ de l'agriculture, elle se veut permettre le tissage de liens entre les différentes composantes de la société, elle est un des moyens de garantir et de préserver ce qui apparaît aujourd'hui comme vital, vital pas seulement pour les pays en développement, mais vital pour nos pays à nous face à la crise que nous subissons, c'est-à-dire la capacité à assurer la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire de sa propre population. Et c'est bien d'ailleurs un des grands signaux d'alarme que nous lançons en ce moment, c'est que cette crise sanitaire est en train de provoquer une crise de la faim qui va arriver, qui va déferler, elle a déjà commencé dans certains pays, mais qui va être très grave, vraisemblablement, et pas seulement pour les pays en voie de développement, mais aussi pour nos pays du Nord.
Qu'entendez-vous faire, effectivement, par rapport à cette crise de la faim qui pointe son nez dans certains pays?
Il y a plusieurs aspects importants qu'il faut noter. Cette crise, elle vient accélérer une situation qui avait déjà commencé depuis maintenant 4 ans et qui faisait qu'on était reparti à la hausse dans le manque croissant de sécurité alimentaire. Juste quelques chiffres, parce que ça parle et que ça permet de voir la situation. Aujourd'hui, on a 11% de la population mondiale, c'est-à-dire 821 millions de personnes qui souffrent de sous-alimentation. Et on a 2 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, qui est en insécurité alimentaire. Et évidemment, cette crise va aggraver cette situation. Alors face à cela, comment s'organiser? Il y a d'abord une clé. Et on ne va pas tout à fait dans le bon sens, comme je le disais tout à l'heure, c'est de redonner toute sa place au multilatéralisme. Il y a des organisations multilatérales internationales qui traitent de cette question de la sécurité alimentaire et du problème de la faim, que ce soit l'Agence des Nations Unies, la FAO, s'en occupe, ou le Comité de sécurité alimentaire mondiale qui suit plus particulièrement ces questions. Or, ce que l'on peut constater ces derniers temps, c'est qu'un certain nombre d'États ont déserté ces lieux. Deuxième élément, certainement, il faut faire attention particulièrement à mettre en place des mesures particulières d'accompagnement des plus vulnérables. Les plus vulnérables, ce sont d'abord tous ces petits agriculteurs de ce qu'on appelle l'agriculture paysanne et familiale qui sont touchés de plein fouet. Touchés de plein fouet pourquoi ? Parce que tous les moyens de communication, de transport ont été arrêtés ou très ralentis aujourd'hui. D'autre part, ce sont des populations qui n'ont quasiment aucune réserve puisqu'elles vivent au jour le jour. Et dans la mesure où elles n'ont plus de débouchés, elles ne peuvent plus acheminer leur production vers les centres d'achat. Aujourd'hui, elles ont peu de liquidités, donc elles vont, pour survivre, prélever sur leur récolte actuelle ou sur leur cheptel actuel et elles vont perdre le peu qu'elles avaient. Donc la situation, elle est urgente.
Un dernier mot, Sylvie Bucari de Pontoise, sur l'annulation de la dette demandée par le pape, reliée d'ailleurs par notre président. Selon vous, c'est une des solutions, c'est la solution ou c'est une des solutions ?
C'est une des solutions. Il y a de multiples solutions. On a vu que le G20 a décidé d'un moratoire. Clairement, aujourd'hui, pour un certain nombre de pays, ce moratoire ne sera pas suffisant. Regardons qu'il y a déjà un moment, le pape François a réclamé cette annulation. Ce n'est pas nouveau dans la doctrine sociale de l'Église. Et pourquoi c'est vraiment important que pour un certain nombre de pays, il n'y ait pas seulement moratoire, mais annulation, c'est qu'à l'heure actuelle, pour faire face aux conséquences de la crise que nous traversons, les pays les plus démunis de la planète ont besoin de liquidités. S'ils doivent continuer à poursuivre le remboursement de la dette au-delà de l'année de moratoire qui a été accordée, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est aussi simple que cela.
Je vous remercie Sylvie Bucari de Pontoise. Merci d'avoir été notre invitée. Et je rappelle donc que l'on peut retrouver votre tribune sur le site de RFI. Merci.
Merci.
Il est médecin, auteur de nombreux ouvrages médicaux, il enseigne l'histoire de la médecine à Paris 5. C'est un spécialiste des textes de la sagesse juive qu'il se plaît à croiser avec son métier et sa vocation de praticien. En ligne avec nous, le docteur Ariel Toledano qui a signé chez InPress plusieurs livres, La médecine du Talmud, Médecine et Kabbale et La médecine de Maïmonide, le grand penseur et scientifique juif du Moyen-Âge. Docteur Ariel Toledano, bonjour.
Bonjour à vous.
Nous vous avions reçu au tout début de l'année 2020 pour un tout autre livre dont le titre avait retenu notre attention, Réparer les corps pour réparer le monde, toujours publié chez InPress, un livre philosophique profondément humaniste qui s'appuie sur de grands penseurs juifs, Maïmonide, Rabbi Nachman de Breslav, Martin Buber, Abraham Heschel ou Emmanuel Levinas. En résumé, notre monde est imparfait et soigner, c'est déjà la réparation du présent, c'est travailler à un monde meilleur. Alors, docteur Ariel Toledano, comment a résonné en vous l'irruption de cette épidémie du Covid-19 ?
La première chose qui a résonné en moi, c'est quelque chose sur lequel je tenais beaucoup et j'en ai peut-être déjà parlé au cours d'une de nos émissions, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire qu'on est conscient en tant que praticien et ça cloche avec, ou ça tranche avec le discours qu'on a entendu ces dernières décennies, ce discours transhumaniste qui vise à certains même aller jusqu'à dire la fin de la mort. Et on constate malheureusement qu'un virus, un petit virus, est capable d'arrêter évidemment toutes les économies, tout un monde qui est quasiment ébranlé par cette situation-là. Et donc ça nous rappelle notre vulnérabilité en tant qu'humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et j'ai d'ailleurs signé un article dans Le Monde des Religions sur comment les épidémies nous rappellent notre humilité, le besoin d'humilité. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, en tant que soignant, et c'est quotidien depuis maintenant le déconfinement, c'est le rappel qu'aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de victimes, beaucoup de décès. Et j'en parlais encore avec une patiente il y a quelques instants, c'est que le rituel de deuil n'a pas été convenablement mis en place. et les gens ont beaucoup de mal à se reconstruire. Ceux qui ont perdu des parents ou des proches parents, on sent qu'il y a vraiment une difficulté à se reconstruire. Tout s'est passé de manière tellement brutale, on a l'impression réellement qu'ils sont dans un cauchemar. Et l'absence de l'individu, de la personne qui était chère, qui est partie si brutalement, bah, cette absence, elle se ressent de manière excessive en ce moment, et ils ont beaucoup de mal à se reconstruire. Donc j'ai une pensée pour ces gens-là qui ont, à l'heure actuelle, cette difficulté à faire ce deuil.
Qui n'ont pas pu dire au revoir aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire que notre vulnérabilité est accrue aussi aujourd'hui par le fait qu'on est face à une maladie. On n'en connaît pas grand-chose, à vrai dire. Et c'est pour cette raison que les avis sont extrêmement divergents. Et c'est le cas vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Quel est notre rapport avec les gens qui sont malades? Comment s'en préserver? Donc vous voyez, les avis se sont partagés. Mais ce problème-là se pose également à l'égard de la mort. Que doit-on faire? Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un qui est décédé? Est-ce qu'on peut rester près du cercueil? Est-ce que le cercueil peut rester ouvert? Est-ce qu'on peut dire un dernier adieu? Tout a été chamboulé. Et pour ces gens-là qui sont dans le deuil, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense évidemment aux gens que l'on soigne, mais on pense aussi à ceux qui sont partis et pour lesquels on avait besoin de dire un dernier adieu. Donc tout ceci est important et ça va faire partie évidemment du monde de demain. Cette reconstruction nécessaire, ce rituel qui a été un petit peu bousculé, ce manque d'humanité auquel on est extrêmement attaché à l'égard évidemment de ceux qui vivent, mais également à ceux qui nous quittent. Et ça a été extrêmement perturbé pendant cette crise.
Docteur Ariel Toledano, comment voyez-vous précisément ce monde de demain? Dans votre dernier livre, « Réparer les corps pour réparer le monde », vous évoquez une phrase de Benjamin Gross, décédé en 2015, qui disait que la crise occidentale, eh bien, c'est la crise de la limite. Est-ce que là, effectivement, cette crise du coronavirus ne nous met pas en face de nos limites? Déjà, il y a eu le confinement. Hein.
Tout à fait, je pense que Benjamin Gross, qui n'a malheureusement pas connu, en tout cas, ce n'était pas dans ce contexte-là qu'il avait évoqué cette crise des limites, mais il a parfaitement raison. Je pense que si on doit réfléchir au monde de demain, il faut qu'on place dans nos décisions l'idée que la conscience sociale doit être revue, repensée, et l'idée aussi de repenser nos rapports sociaux. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense à un autre rabbin du Moyen-Âge qui s'appelait donc Maïmonide, que vous avez présenté il y a quelques instants, qui disait qu'une société est bien gouvernée quand l'état de santé des individus qui la composent s'améliore autant que possible. Et là, aujourd'hui, on est face à un constat. Est-ce que nous sommes bien gouvernés de la façon dont nous sommes gouvernés? Parce qu'on a beaucoup parlé, moi je parle en tant que soignant, mais on a beaucoup parlé des médecins hospitaliers qui étaient face à l'épidémie, au front de cette épidémie. Mais les médecins de ville ont essayé d'agir à leur manière pour essayer de décharger le flux des urgences hospitalières de patients qui avaient évidemment le Covid, mais des patients qui n'avaient pas de Covid, mais qui avaient d'autres types d'urgences. Et ces gens-là étaient un petit peu isolés. Moi, je le vois en tant que médecin. Et il va falloir repenser, évidemment, cette façon de travailler entre la ville, entre l'hôpital, repenser. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous soyons dans un état qui a autant de moyens, mais qui n'est pas capable d'offrir des soins à tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est amené, c'est-à-dire que le confinement n'a été mis en place que pour décharger des urgences hospitalières d'un flux de malades trop important qui risquerait de dépasser leur capacité pour pouvoir les prendre en charge. Mais comment on en arrive à ce genre de situation? Donc on ne peut pas repenser le monde de demain sans prendre en considération cette notion d'offre de soins, mais évidemment penser, comme je l'ai déjà évoqué, c'est les rapports sociaux, et évidemment penser aussi que le soin, et ça c'est ce que pensent de nombreux philosophes depuis maintenant à peu près un demi-siècle, notamment aux États-Unis, sur ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire on a traduit ça en soin, mais comment le soin peut être une manière de réparer le monde? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Réparer le monde, c'est peut-être à travers le soin qu'on pourra réparer le monde. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, de repenser nos rapports entre les hommes, mais aussi avec la nature, parce que c'est probablement quelque chose il faudra prendre en considération.
Je vous remercie, docteur Ariel Toledano. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Réparer les corps pour réparer le monde et c'est publié chez Une Presse. Merci. Ce dimanche 17 mai est en France la journée des chrétiens d'Orient. Avec nous en ligne, Mgr Pascal Gollnisch, le directeur de l'Œuvre d'Orient. Cette association œuvre depuis plus de 160 ans dans une vingtaine de pays dans le domaine de la scolarisation, du soin et de l'aide sociale sans distinction de religion. Mgr Pascal Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Cette journée, c'est aussi une journée de prière, hein, des chrétiens d'Occident pour leurs frères d'Orient. L'œuvre d'Orient, je le disais, vient en aide aux chrétiens d'Orient, mais aussi à toutes les communautés, sans distinction de religion. Est-ce que la crise du coronavirus ne risque pas d'apporter des dons en moins grande quantité, alors que l'Orient en a réellement besoin?
Oui, alors d'abord, cette journée du 17 mai, c'est effectivement une journée que nous souhaitons dédier aux chrétiens d'Orient. Pour les croyants, la prière a sa place, mais je dirais, au-delà du cercle des croyants, tous les hommes de bonne volonté peuvent avoir le souci, et ont le souci souvent, de ces minorités en danger. C'est aussi une journée réciproque, c'est-à-dire que les chrétiens d'Orient, dans beaucoup de communautés en Orient, prient pour la France, et pour l'ensemble de la France. Voilà. Donc je crois que cette réciprocité est importante. Deuxièmement, effectivement, l'œuvre d'Orient aide sans distinction de religion parce que c'est le choix des chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient aident la population, aussi bien chrétienne que musulmane, riche que pauvre, et donc nous aidons les chrétiens d'Orient dans cette mission tout azimut. Voilà. Troisièmement, vous avez raison, cette crise du coronavirus, évidemment, bouscule nos pays, en particulier nos économies, nous le sentirons dans les mois qui viennent, mais bouscule encore plus les pays qui sont fragiles du Moyen-Orient, les minorités fragiles dans ces pays fragiles, et par conséquent, oui, nous sommes très inquiets sur la répercussion, sur les aides que nous pourrons apporter à ces pays, et à ces communautés chrétiennes, et nous sommes évidemment très inquiets. Donc nous appelons effectivement des donateurs actuels ou potentiels à ne pas relâcher leurs efforts malgré les difficultés de nos propres situations.
Père Pascal Gollnisch, on a peu d'écho en fait de la crise du coronavirus au Proche-Orient. Pourquoi ?
Oui, alors il semblerait, si on écoute les chiffres officiels, que la crise ait peut-être moins touché ces pays que l'Europe. Peut-être qu'ils ont pu, grâce à l'expérience dans laquelle nous étions nous-mêmes entrés, prendre des décisions plus rapides de confinement. Peut-être que les conditions climatiques sont moins favorables au virus, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une crainte que dans certaines régions, les chiffres soient difficiles à établir parce que la structure hospitalière n'est pas ce qu'elle est en Europe. Et une autre crainte, c'est que en retardement, la crise se développe davantage. Et que lorsque nous commencerons à nous tirer d'affaire, peut-être qu'elle ressurgira dans ces pays. Donc nous avons des inquiétudes, mais de fait, en ce moment, la crise est peut-être moins forte, mais les dégâts du confinement sont tout à fait considérables.
Et puis effectivement, on peut penser notamment aux réfugiés dans les camps, en Syrie.
Il y a évidemment les réfugiés, soit les déplacés dans leur propre pays en Syrie, soit les réfugiés syriens, notamment en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Évidemment, la crise pour les réfugiés est terrible, bien qu'il y ait des soutiens des structures des Nations Unies. Pour ce qui est des citoyens de ces pays, lorsqu'ils perdent leur emploi, parce que lorsqu'ils sont confinés, ils perdent leur emploi. Et il n'y a pas d'indemnisation. Donc les gens n'ont plus aucune ressource, ne peuvent plus nourrir leur famille. On voit donc la gravité de la situation.
Vous avez tenu récemment une visioconférence sur la situation de l'Irak, du Liban et de la Syrie. Et vous avez parlé du spectre de la faim.
Oui, en effet, pour prendre l'exemple du Liban, qui était tout de même jusqu'à maintenant le pays, j'allais dire, le plus riche des trois par tête d'habitant, actuellement au Liban, on pense que 40% des citoyens libanais, je ne parle même pas des réfugiés, des citoyens libanais, sont tombés brutalement en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une déroute bancaire, une faillite de l'État, et l'économie est tout à fait effondrée, donc de fait, on en est à distribuer de l'aide alimentaire aux citoyens libanais de la classe moyenne, même de la classe moyenne, de la classe moyenne supérieure, même des médecins, des professeurs ne parviennent plus à nourrir leur famille.
Or, le Liban est un pilier pour la région.
Bien sûr, c'était le pays d'abord où règne une liberté religieuse, puisque les différentes communautés concourent ensemble au pouvoir, tant bien que mal, mais enfin quand même, on peut changer de religion, c'est le seul pays de la région, sans problème. Et puis, le système bancaire libanais servait souvent, y compris pour les citoyens syriens, jordaniens et même parfois irakiens. Donc effectivement, l'effondrement du système bancaire libanais est une catastrophe pour la région.
Je vous remercie, Monseigneur Pascal Golnisch.
Merci à vous.
Et nous prenons la direction du Liban, dont Mgr Golnisch rappelait il y a quelques instants la crise bancaire sans précédent qui impacte toute la région. Avec nous en ligne de Beyrouth, le père Fadi Daou, prêtre maronite, président et directeur général de la fondation libanaise Adiane. Créée en 2006 par 5 chrétiens et musulmans, la fondation Adiane œuvre pour la citoyenneté et le vivre ensemble dans des sociétés pluriconfessionnelles. La fondation Adiane a obtenu en 2018 le prix Nivano de la paix, une sorte de prix Nobel des religions, et le prix de la paix civile au Liban. Père Fadi Daou, bonjour.
Bonjour.
Cette crise bancaire sans précédent, quelles conséquences au niveau de la vie quotidienne des Libanais ?
Des conséquences énormes. C'est vraiment un tournant historique dans l'histoire du pays. La Banque mondiale prévoit qu'en 2020, dans les prochaines semaines, peut-être déjà, 50%, c'est-à-dire plus que la moitié des Libanais vivront en dessous du seuil de la pauvreté. Donc des conséquences énormes. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Tout le monde a perdu une grande partie de la valeur de leur économie, de leur salaire. Les gens n'arrivent pas à accéder à leur compte en banque. Donc, beaucoup de problèmes au niveau financier et économique, mais qui se répercutent aussi et se traduisent au niveau social. Donc, on voit aujourd'hui de manière visible, c'est la première fois pour moi, ayant vécu dans ce pays pour des dizaines d'années déjà, on voit la pauvreté visible à l'œil nu. Ce n'est pas seulement un problème économique et financier, c'est un problème politique aussi. C'est dû à la grande corruption dans le système politique libanais, au système confessionnel clientéliste qui a en fait sclérosé tout l'État libanais. Et ce sont des conséquences avec, bien sûr, la crise du Covid-19 aujourd'hui qui vient s'ajouter à tout cela.
Alors précisément, Père Fadi Daou, est-ce qu'il y a des conséquences au niveau des relations interreligieuses ?
Alors, tout le monde souffre de cette situation-là. Je pense qu'il y a un certain éveil, surtout parmi la jeune génération des Libanais, qui commence à comprendre que le système confessionnaliste a un peu usurpé le bien commun. Donc, il y a un certain éveil citoyen qui cherche en fait une solution qui va au-delà du système confessionnaliste bloqué, sans que ce soit un renie ou un reniement de la richesse, de la diversité, parce qu'à la fois tout le monde s'attache aussi à ses appartenances communautaires et à la diversité de la société libanaise. Un exemple de solidarité, je dirais, intercommunautaire ou interconfessionnelle, on a vu il y a quelques mois les grandes manifestations dans le pays, qui en fait brandait clairement le slogan d'une citoyenneté commune avec l'ouverture à toute la diversité qui compose le pays. Mais beaucoup plus récemment, le 14 mai, donc c'était une journée annoncée par le pape François et l'imam d'Al-Azhar, une journée de solidarité entre tous les gens, et en appelant surtout les fidèles de leur communauté, chrétiens et musulmans, de s'unir dans la prière, dans le jeûne, mais aussi dans les actes de solidarité pour faire face ensemble à cette crise de Covid-19. Au Liban, nous avons réussi, donc à l'initiative d'Adiane, à grouper 17 organisations différentes, 17 communautés et organisations, je dirais, de toutes les confessions, qui ont manifesté ensemble, d'une même voix, la volonté de vivre cette crise dans la solidarité, dans l'humilité d'abord, parce que c'est une crise énorme, dans le retournement vers Dieu, je dirais, et aussi dans la solidarité intercommunautaire, que le soutien, la solidarité, le soutien aux plus pauvres ne soit pas fait sur des bases confessionnelles ou confessionnalistes, mais sur des bases humaines où on peut tous s'entraider pour, autant que possible, faire face à cette crise que nous traversons aujourd'hui.
Père Fadi Daou, quelles sont vos inquiétudes pour les mois à venir ?
Alors, une des grandes inquiétudes, en fait, et surtout après que cette crise de Covid-19 est passée et les aéroports de nouveau ouverts, les voyages internationaux, c'est qu'il y aurait, je pense, une grande vague de départ du Liban, une sorte de vague d'émigration. à cause justement de cette situation socio-économique très difficile. Et ceci est inquiétant pour tout le monde au Liban, parce qu'on continue à perdre la jeune génération capable en fait d'aider à la reconstruction du pays. Et sans doute aussi, c'est une angoisse qui touche les communautés chrétiennes plus particulièrement, parce que c'est des communautés qui deviennent de plus en plus minoritaires et perdant encore de leur force vive, ça devient plus inquiétant par rapport à eux. Un autre aspect d'inquiétude, c'est en fait l'incapacité du gouvernement actuel de répondre aux attentes des Libanais. On aurait espéré, après le soulèvement qu'il y a eu à partir d'octobre 2019, qu'on ait un gouvernement plus proche. Malheureusement, on est plutôt dans une situation politique qui ne reflète pas cela. Et c'est une autre aussi inquiétude, que le gouvernement échoue et qu'on entre encore une fois dans une crise de gouvernance dans le pays.
Pour conclure, en quelques mots, Père Fadi Daou, le rôle de la Fondation ADIAN dans cette situation politique, sociale, économique très aiguë.
Alors, la Fondation ADIAN est justement fondée sur trois valeurs, diversité, solidarité et dignité humaine. Et en fait, nous nous trouvons face à une situation où ces trois valeurs sont à la fois d'une certaine manière menacées par les difficultés et les crises que nous traversons, et en même temps, elles deviennent un appel encore plus important pour nos sociétés. Nous sommes au Liban encore dans le confinement, nous nous attachons davantage à ces trois valeurs et à notre mission pour ces trois valeurs dans la société libanaise et au-delà. J'exprime cela aussi, notre solidarité avec les Français, avec la France et avec le monde entier.
Je vous remercie, Père Fadi Daou. Je rappelle donc que vous êtes le président et le directeur général de la Fondation libanaise ADIAN. Merci.
Merci bien.
Ce dimanche devait être à Lourdes le point d'orgue du PMI, le pèlerinage militaire international, qui rassemble chaque année 15 000 soldats d'une quarantaine de pays. Son nouveau directeur est l'abbé Jean-Marc Fournier, aumônier de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et qui est également chanoine de Saint-Louis des Invalides, la cathédrale du diocèse aux armées. Le nom de Jean-Marc Fournier a été largement cité il y a un an lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris par la presse étrangère qui a alors salué le héros, l'homme qui, bravant le danger, a sauvé des flammes la couronne d'épines. Mais pour ce militaire de 54 ans qui était en Afghanistan en 2008, quand une embuscade coûta la vie à 10 militaires français, pour ce pompier qui a évacué les blessés des attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et de la prise d'otages sanglante de l'hypercachère de Vincennes, on accole trop souvent le mot héroïsme là où il s'agit de remplir sa mission, de faire en somme le job. Retour avec l'abbé Jean-Marc Fournier sur le PMI de Lourdes, une histoire qui remonte à l'après-guerre.
Alors PMI, pèlerinage militaire international, c'est ce qui a semblé le meilleur moyen de rassembler les peuples après la grande boucherie qui s'était produite dans la Seconde Guerre mondiale. Et en 1958, de manière très formelle, les Français et les Allemands se sont retrouvés au pied de Marie, à Lourdes, de manière à promouvoir désormais une paix auquel tous les peuples, donc français-allemands, mais à travers eux le monde entier, aspiraient. Alors effectivement, cette année est une année singulière, alors que vendredi, samedi, dimanche, nous aurions dû être nous aussi pour la 62e fois au pied de Notre-Dame. Il se trouve qu'en raison des circonstances que tout le monde connaît et vit dans sa propre chair, à savoir l'épisode du Covid-19, eh bien cette année sera une année blanche et le 62e pèlerinage aura lieu l'année prochaine, en 2021.
Sur quelle thématique ?
Alors la thématique, toujours autour de la paix, mais pas la paix comme le monde quelquefois tente de nous la proposer. Vous connaissez cette définition de ce théoricien de la guerre. La paix, c'est la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Pas du tout celle-là, au contraire, c'est la paix qu'un enfant qui est né dans l'humilité de la crèche nous propose. C'est « je vous donne ma paix », c'est la paix bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc chaque année, ça aurait été le cas cette année, 15 000, il faut compter à peu près 15 000 militaires, parmi eux des militaires qui viennent d'une quarantaine de pays. Il y a les militaires bien sûr en activité et puis il y a ceux qui ont été blessés.
Alors ce pèlerinage militaire international a cette particularité effectivement de réunir à la fois les gens d'active, mais aussi des réservistes, ceux qui sont même en situation de retraite, et avec une composante importante, puisque finalement c'est le cœur du pèlerinage, eh bien cet accueil des blessés pour lesquels nous leur laissons eh bien toute la possibilité, à la fois par un placement judicieux dans les célébrations, mais aussi par un challenge spécial, le challenge des blessés, eh bien nous essayons de les remettre au cœur justement de la vie militaire et de la vie de l'Église.
Alors, ces militaires que vous auriez dû rencontrer, Père Jean-Marc Fournier, à Lourdes, lors du PMI, ils sont où aujourd'hui ?
Mais ils continuent la mission qui est la leur, à la fois de se former, mais aussi eh bien, de protéger le peuple de France. Vous avez l'opération Sentinelle qui continue, on a toujours des militaires dans les lieux sensibles qui patrouillent, et puis vous avez une mission supplémentaire qui leur a été assignée et qu'ils ont remplie avec grand cœur, toujours avec leurs aumôniers à côté d'eux, pour la plupart, à savoir l'opération Résilience, qui consistait eh bien, précisément dans cette période de Covid, rappelons-le, non seulement à apporter un soutien par leurs hôpitaux, les hôpitaux militaires d'instruction des armées, qui ont été très exposés et qui ont répondu présent tout de suite, mais aussi par toute une opération de logistique pour le transport de masques, pour le transport de tout ce qui pouvait être nécessaire à mettre en place eh bien, la réponse de la France face à cette pandémie qui se répandait, on l'a vu, de manière dramatique pour beaucoup.
Vous faites allusion à l'hôpital de campagne, au seul hôpital de campagne que l'armée a monté dans l'est de la France, à Mulhouse.
Alors, je parle effectivement de cet hôpital de campagne qui a été monté, qui a permis d'offrir un certain nombre de lits avec la capacité de respirateurs, hein, ce dont la France avait tant besoin. Hein. Je rappelle, enfin, c'est pas mes chiffres à moi, mais on est passé de 5 000 lits de réanimation à une capacité de plus de 12 000, donc ce n'est pas rien. Donc il y a ça, c'est sûr, mais il y a aussi toute la logistique. Hein. Je rappelle qu'à travers, on parle des militaires, mais à travers les militaires, il faut saluer l'action de tous ces Français anonymes qui, du chauffeur de bus, qui du chauffeur, du transporteur routier, qui de la femme de ménage, qui de la caissière, qui que sais-je encore, et puis bien sûr de tout le personnel hospitalier, ont tenu leur poste de manière tout à fait extraordinaire, avec un dévouement sans faille.
Vous préférez le mot dévouement, héroïsme ?
L'héroïsme, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque l'héroïsme, c'est le stade dépassé de ce que le dévouement, déjà, nous amène à produire. Donc, assurément, il y a eu des héros un peu partout, mais ça, seul le bon Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc, attendons le jugement dernier pour savoir qui a fait quoi et quel sera le titre qui lui sera donné.
L'abbé Jean-Marc Fournier, directeur du PMI, dont la prochaine édition sera du 21 au 23 mai 2021 à Lourdes. Toutes les infos à retrouver sur le site du diocèse aux armées. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Laurence Alernaud vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.